La vie des idées avec Mathieu Bock-Côté.
Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La Vie des idées. Nous commençons aujourd'hui la troisième année de cette émission, ce moment de rendez-vous intellectuel à Radio-VM. Et pour marquer l'événement, j'ai le grand bonheur et le grand honneur de recevoir Jacques Beauchemin, certainement un des intellectuels québécois les plus importants du Québec actuel. Sociologue et professeur à l'UQAM, on le connaît pour ses travaux essentiels sur la question de l'identité québécoise. Son œuvre relève à la fois de la sociologie politique et de la sociologie historique. À bien des égards, on est en droit de voir en lui l'héritier de Fernand Dumont. Comme lui d'ailleurs, il intervient dans les débats de la cité. Comme lui aussi, il a eu le courage de passer de la réflexion à l'action en rejoignant la haute fonction publique québécoise pour 2 ans, il y a quelques années, avant de revenir à la vie académique. C'est un plaisir de le recevoir pour évoquer avec lui son parcours intellectuel, les grands thèmes qu'il a abordés, son engagement et sa vision de la sociologie et du Québec. Jacques Beauchemin, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors, d'abord et avant tout, petite présentation. Vous êtes professeur à l'UQAM depuis le milieu des années 90, si je ne me trompe pas.
Oui, depuis janvier 93. Ça fait 25 ans.
Et vous avez publié de nombreux ouvrages consacrés essentiellement à la société québécoise, mais aussi des travaux de sociologie politique, de sociologie, la société des identités, je pense, des travaux plus théoriques. Cela dit, lorsqu'on vous colle l'étiquette parce que c'est votre doctorat de sociologue, pourtant, comme la plupart des intellectuels qui ont une vocation véritable, vous transcendez, vous faites éclater les catégories, c'est-à-dire vous êtes sociologue mais philosophe aussi, à la fois historien des idées à votre manière. Pourtant, votre entrée dans le monde des idées, il y a de cela quelques décennies, s'est fait sous le signe de la sociologie. Alors, la question première que je vous poserai, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte qu'au moment d'entrer dans la vie intellectuelle, vous avez fait le choix de la sociologie plutôt que de la philo ou de la Sciences Po, alors que manifestement, tous ces chemins étaient ouverts pour vous d'une manière ou de l'autre?
Oui, c'est une bonne question. Parce que c'est vrai de dire que bon, la philosophie m'attirait beaucoup, l'anthropologie aussi m'attirait. J'étais à la recherche, au fond, d'une espèce de méta-explication du monde social. Très jeune, il m'apparaissait évident, clair, que la société n'était pas que le simple agglutinement d'individus, qu'il y avait une espèce de système organisateur de tout cela. Alors maintenant, comment comprendre ce grand système qui organise la vie des individus? Eh bien, la philosophie, évidemment, la reine de toutes ces disciplines, m'aurait permis d'appréhender ce phénomène-là, comme d'autres grandes disciplines des sciences humaines. Mais la sociologie m'intéressait davantage parce que j'avais l'impression, à tort ou à raison, qu'elle offrait une prise plus solide sur la concrétude des choses, sur la vie des sociétés qu'on pouvait appréhender à partir de pratiques sociales, de pratiques politiques, de pratiques culturelles. Et c'est la raison pour laquelle je me suis finalement tourné vers la sociologie. Mais ça aurait pu être autre chose assez facilement. Il aurait fallu que se trouve sur mon chemin un maître qui m'aurait amené ailleurs, et je pense que j'y aurais trouvé mon compte.
Votre première rencontre intellectuelle, je ne dis pas la seule, mais une rencontre qui va marquer votre parcours, ça va être, si je ne me trompe pas, le sociologue Gilles Bourque, qui était une grande figure de la sociologie québécoise à l'époque. Est-ce que c'est lui votre porte d'entrée dans la sociologie québécoise, ou est-ce que d'autres figures vous y avaient conduit avant même de rencontrer Gilles Bourque?
Je dirais que c'est d'abord Gilles Bourque qui, effectivement, m'a ouvert la porte, mais davantage encore, m'a fait comprendre l'intérêt et la valeur de la sociologie. Bourque était, d'abord, il faut le savoir, un enseignant extraordinaire. Ses cours étaient absolument fascinants, passionnants, même si lui, toute sa vie, a prétendu qu'il était un piètre professeur, mais pas du tout, c'était un excellent enseignant. Et ses cours m'ont éveillé à beaucoup, beaucoup de choses. Et en plus, à l'époque, il faut le dire aussi que pour le meilleur et pour le pire, l'université, l'UQAM en particulier, on l'appelait l'UQAM la Rouge, c'était pas pour rien, l'enseignement était essentiellement fondé sur le matérialisme historique. Alors aujourd'hui, le procès de cette approche-là est fait depuis longtemps, je n'y reviens pas. Mais à l'époque, c'était ça qui dominait. Et on dira ce qu'on voudra, mais cette grande théorie de la société fournissait, en tout cas à plusieurs, dont moi, l'impression à tout le moins d'avoir une prise sur la réalité sociale, une clé de compréhension globale. Alors là, on peut toujours dire trop globale, totalisante, c'est le moins qu'on puisse dire, trop. Mais en tout cas, on avait l'impression de pouvoir se saisir de quelque chose. Et Bourque était un grand maître à cet égard. Ses cours étaient toujours avaient toujours pour effet de prendre une réalité sociale par le haut, de faire descendre la théorie sur la concrétude et de nous offrir une explication qui était absolument saisissante, parce que On ressortait de ses cours, mais de ses écrits aussi, avec l'impression d'une saisie globale, d'un phénomène qui autrement était un peu insaisissable. Alors oui, Gilles Bourque a été au fond celui qui m'a fait aimer davantage encore la sociologie, m'en a montré l'utilité.
Alors, Gilles Bourque était, vous l'avez dit, marxiste. Donc, vous entrez en sociologie par le chemin du marxisme. Peut-être même qu'à l'époque, on se disait qu'il n'y en avait pas vraiment d'autres, possiblement. Les thèmes, donc au-delà de la sociologie comme méthode d'appréhension du monde, les thèmes qui les premiers vous interpellent, c'est-à-dire le premier livre pour lequel vous avez été vraiment connu, c'est La société libérale du Plessis. Donc, c'était à la fois de l'histoire des idées, de la sociologie politique, le retour sur une période trouble de l'histoire québécoise sur lequel vous jetiez un regard nouveau. Est-ce que la société québécoise est tout de suite votre premier objet d'interrogation? Vous allez y arriver un peu plus tard, finalement.
Je vais y arriver un peu plus tard parce que, au tout début, et justement en raison de cette formation dans le cadre du marxisme, ce qui m'intéressait d'abord et avant tout, c'était l'approche, pour ainsi dire, générale des rapports sociaux, mais plus exactement des rapports politiques et des rapports de classe. C'est ce qui nous intéressait. Je me souviens très bien, moi, à l'époque, dans les années 90, de débats passionnés qui consistaient à savoir si la bourgeoisie québécoise était une bourgeoisie comprador, une bourgeoisie intégrée à la bourgeoisie canadienne. Bon, hein, des discussions sans fin, la nature de la petite bourgeoisie, le prolétariat québécois, fallait-il en faire une classe en Allemagne?
Encore dans les années 90, ces questions-là étaient dominantes en sociologie.
Quand je suis arrivé, moi, au début 90, même si tout cela était s'essoufflait là, grandement, moi, j'ai, au fond, c'est la queue de la comète. Hein. Je suis arrivé au moment où tout cela est en train de changer. Mais c'était encore comme ça. Là. C'était des débats. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la théorie de la chose. Alors, je lisais avec avidité les livres d'Althusser, par exemple, hein, qui étaient fin 80, milieu 80. Que je trouvais absolument géniaux et qui, eux aussi, avaient l'avantage d'offrir une compréhension d'ensemble de la réalité sociale. Donc, non, je ne suis pas parvenu à l'objet Québec, si on veut, si rapidement. C'est d'abord la grande théorie qui m'a intéressé et, de manière plus générale, les rapports de classe. Et évidemment, j'ai été rattrapé par la question du Québec, parce que il est très difficile d'y échapper lorsqu'on pratique ce genre de métier au Québec. Hein, Fernand Dumont, par exemple, a toujours dit « Je ne serai pas nationaliste et je ne m'intéresserai pas à la question nationale si je n'étais pas québécois. » Et c'était pour lui une espèce d'incontournable au sens fort. Comment faire pour, lorsqu'on se définit comme intellectuel au Québec, comment faire pour contourner, éviter, ne pas voir ce qui se dresse devant soi comme question perpétuelle, comme problème, c'est très difficile. Alors évidemment, la question m'a rattrapé et je dirais qu'elle ne m'a plus jamais lâché depuis.
Alors, vous rencontrez la société québécoise, vous la rencontrez sous quelle figure d'abord et avant tout? C'est-à-dire, quelles sont les questions, c'est la question nationale en tant que telle? C'est le Québec d'avant 60? C'est comprendre la Révolution tranquille? C'est le projet souverainiste directement? Quelle figure prend la société québécoise quand vous la rencontrez comme objet d'enquête?
Ben, c'est un peu le fait du hasard, hein, parce que, au fond, dans tout parcours intellectuel, dans toute carrière, il y a de la contingence, il y a du hasard. Moi, j'ai été embauché assez jeune comme assistant de recherche pour, dans le cadre de la recherche que menait Gilles Bourque, le même Bourque, et Jules Duchâtel, qui était son camarade et collègue à l'époque, co-chercheur. Et eux travaillaient sur le Québec duplessiste, un objet qui, au départ, ne m'intéressait pas véritablement, m'était étranger, mais on m'offrait un emploi. Alors, évidemment, j'ai dit oui. Et tout ça m'a entraîné à faire, ultimement, une thèse de doctorat portant sur le Québec duplessiste, plus exactement sur le discours politique duplessiste. Je n'ai jamais regretté cette inflexion qu'a pu prendre mon parcours à partir de là, mais il faut bien voir que c'est l'effet de la contingence et du hasard. Ça aurait pu être autre chose. Donc, mon entrée sur la question du Québec, si on veut, s'est faite par là. Mais ça aurait pu se faire autrement. Ben,
d'ailleurs, vous y êtes pas, vous avez fait la thèse, qui est quand même une étape importante, mais ensuite, vos travaux ne se sont pas attardés à la période du Plessiste. Vous avez déplacé assez rapidement votre objet de réflexion davantage vers la Révolution tranquille que vers ce qui la précédait. Et d'ailleurs, sur la scène publique, vous me corrigerez, mais vos interventions qui sont les plus remarquées touchent justement à cette question de l'héritage de la Révolution tranquille. Avant la série de livres, donc, sur la question de l'identité québécoise, ainsi de suite, vos interventions les plus marquantes sont celles qui touchent au rapport à l'héritage de la Révolution tranquille, alors que vous portez à sa défense, alors qu'il est plutôt à la mode à partir du début des années 2000 de le congédier d'une manière ou de l'autre.
Absolument. C'est pas parce que je tournais le dos à la question au Québec du Plessiste et à cet objet-là en tant que tel, mais j'avais l'impression, avec ma thèse, avec l'ouvrage que nous avons signé, Bourque du Châtel et moi, sur la société libérale du Plessiste, non pas que tout avait été dit, mais que moi, en tout cas, j'avais dit ce que j'avais à dire. Et que, sans renier l'objet, sans me promettre à moi-même de ne plus y retourner, je le quittais parce que, justement, c'est le Québec d'après 60 qui m'intéressait davantage, parce que j'avais l'impression que s'y déroulait quelque chose de très important pour l'avenir de la société québécoise, hein, qui en quelque sorte, trouve dans la Révolution tranquille un moment de refondation. Mmh.
Alors, vous touchez à la Révolution tranquille et vous vous portez, j'insiste là-dessus, à sa défense à certains égards. C'est-à-dire, il y a des débats qui marquent la fin des années 90, début 2000, sur la nouvelle sensibilité en histoire. C'est le procès de la Révolution tranquille qui aurait trahi ses idéaux. C'est la Révolution tranquille qui, dès ses origines, aurait été corrompue d'une manière ou de l'autre. Donc, il y a toute une série de discours qui s'imposent dans la vie publique, qui sont souvent portés par les plus jeunes générations. Et vous arrivez en disant, un instant, défendre la Révolution tranquille mérite qu'on la défende pour elle-même. Vous dites, c'est une refondation. À quoi vous portiez? Lorsque vous portez à la défense de la Révolution tranquille, par exemple, je pense à un colloque en 2000, je pense, pour les 40 ans de la Révolution tranquille, vous vous portez à la défense de la Révolution tranquille, mais à quoi vous portez? Que défendez-vous lorsque vous la défendez? Une refondation québécoise, refondation inaboutie par ailleurs, un élan dans notre histoire, mais un élan vers quoi? Qu'est-ce qui vous attache à cette période de notre histoire? Comment la lisez-vous?
Beaucoup de choses. Premièrement, la Révolution tranquille, dans notre longue histoire, c'est un petit miracle. Premièrement, notre peuple, d'abord, est parvenu à survivre jusque-là. C'est déjà beaucoup. Il y a là, d'ailleurs, motif de non pas de réjouissance, mais d'une admiration qu'on doit se consentir à soi-même. Mais la Révolution tranquille, c'est un petit miracle, davantage encore, parce que à partir de là, d'autres possibles s'ouvrent. La possibilité non plus de survivre, de se maintenir dans l'histoire, ce qui est déjà beaucoup, mais de penser l'émancipation de notre peuple. Émancipation qui pouvait se déployer, se décliner sur plusieurs registres, culturels, économiques, la fameuse classe d'affaires francophone qu'il fallait absolument se donner, disait-on, culturel, la décolonisation de la culture québécoise et tout ce qu'on sait, et puis éventuellement politique. La Révolution tranquille, vous dites qu'elle est inaboutie, et c'est largement, malheureusement, exact. Elle a quand même réalisé son programme en partie, en bonne partie. On peut dire que ce projet-là était, si on va à l'essentiel, était un projet d'émancipation collective. Eh bien, c'est déjà extraordinaire qu'une société comme la nôtre puisse envisager, à l'aube des années 60, ce projet-là, alors que l'histoire vouait cette société à la disparition, pour des raisons qui sont presque évidentes, hein? Petit îlot francophone en Amérique, intégré à la dynamique politique canadienne qui est plutôt défavorable, disons, à la persistance dans l'histoire de cette société, de ce peuple. Alors, c'était déjà extraordinaire qu'on puisse imaginer un projet émancipateur, et c'est ce que la Révolution tranquille a fait. Alors, lorsque je me porte à sa défense, je me porte d'abord à la défense de cette vision extraordinaire de la société pour elle-même, vision qui repositionnait, hein, dans cet acte refondateur, le Québec comme projet émancipateur. Bon, ensuite, ce à quoi il faut tenir, ce qu'il faut essayer de défendre, c'est les aspects concrets de ce projet d'émancipation. La Révolution tranquille, on l'a beaucoup dit, je n'y reviens pas, ce n'est pas le lieu ici de donner un cours de sociologie, mais c'est la constitution d'un État-providence québécois, avec beaucoup de conséquences, en particulier la mise en œuvre, la mise sur pied d'institutions, d'organismes typiques des États-providence, la Caisse de dépôt et de placement, la SGF et tout ce qu'on sait, c'est aussi des politiques sociales qu'on peut qualifier de progressistes, pour autant que ce mot ne soit pas complètement connoté. Un ensemble d'institutions, d'organismes, de mesures, de politiques qui, aujourd'hui, nous appartiennent et auxquelles les Québécois ne voudraient pas normalement renoncer très facilement. Alors, la Révolution tranquille, elle a permis cela. Et je pense que du haut de l'histoire, on peut s'en réjouir. Et surtout, je pense qu'il faut s'empêcher de porter un jugement trop sévère sur les ratés, parce que, évidemment, il y en a de ces politiques, de ces nouvelles institutions que la Révolution tranquille a mis au monde.
Alors, la Révolution tranquille, je me permets une dernière question sur ce thème qui me semble très important. Alors, au moment où cette question apparaît vraiment dans votre réflexion, dans plusieurs textes, on peut le voir, il y a une distance néanmoins entre la Révolution tranquille telle que vous la pensez et telle qu'elle est en train de se normaliser dans le discours académique. Je m'explique. La Révolution tranquille, à partir des années 80, 90, 2000 plus encore, est réduite à un processus de normalisation ou de modernisation, d'ajustement de la société québécoise à la normalité nord-américaine. Et plus on la normalise et plus on la vide de sa charge d'émancipation collective. Et j'ai l'impression que dans la définition de la Révolution tranquille, dans l'image de la Révolution tranquille qu'on trouve dans votre œuvre, donc qu'on trouve d'un livre à l'autre et d'un article à l'autre, vous êtes fidèle à une définition de la Révolution tranquille qui est davantage celle, on pourrait dire, de ses fondateurs, de ses premiers grands inspirateurs. Politiquement, ce serait Parizeau, ça peut être Bouchard aussi, ça peut être Landry. Intellectuellement, c'est Guy Frégaud, c'est Fernand Dumont, on pourrait le dire, c'est Michel Brunet, c'est l'École de Montréal. Donc j'ai l'impression qu'au moment où vous défendez la Révolution tranquille, vous ne défendez pas la même Révolution tranquille en un sens que celle qui est généralement célébrée dans un certain consensus académique. Est-ce que, non pas que vos deux visions se contredisent, mais il y a une singularité dans votre vision de la Révolution tranquille qu'on ne retrouve pas chez ceux qui n'y voient finalement qu'un mouvement de modernisation parmi d'autres. Est-ce que je me trompe en proposant cette distinction?
Non, vous avez raison. C'est-à-dire que, réglons d'abord une chose, est-ce que la Révolution tranquille correspond d'une certaine manière, au processus de normalisation dont vous parlez? Autrement dit, est-ce qu'elle n'a pas été, dans l'espace québécois, ce que le providentialisme a été un peu partout en Occident, en Amérique du Nord comme en Europe? Jusqu'à un certain point, on peut répondre oui, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les grandes institutions de la Révolution tranquille et celles que mettent en œuvre les États-providence anglais, français, scandinaves et canadiens. Bon, alors, réglons ça. Autrement dit, il n'y a pas, si vous voulez, un caractère absolument original à la Révolution tranquille qui en ferait un événement d'exception dans le monde occidental. Alors, ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que la Révolution tranquille n'est que cela? Je suis convaincu que non, et c'est précisément cette autre dimension que j'essaie de défendre contre vents et marées. La Révolution tranquille, elle a été sur le plan symbolique et identitaire quelque chose de majeur, d'important et justement d'original. Elle a fait en sorte qu'une petite population en Amérique du Nord puisse se retrouver en elle-même et se redonner un élan dont l'histoire l'avait peut-être privée jusque-là. La possibilité de s'ériger en sujet d'elle-même, dépassant pour la première fois la simple exigence de se maintenir dans l'histoire. Et je le redis, se maintenir dans l'histoire, durer, c'était déjà tout un projet, parce que tout au fond le niait. Alors voilà qu'avec la Révolution tranquille, le Québec, les Québécois se donnent une nouvelle image d'eux-mêmes, extrêmement puissante, qui les pose en sujet politique, et qui les appelle à un dépassement de l'actuel, de l'ordre des choses. C'est extraordinaire. Et les Québécois d'aujourd'hui sont les héritiers directs de cette refondation identitaire. Même lorsque on les entend critiquer la Révolution tranquille au nom de son échec relatif, sinon absolu, aux yeux de certains, La vérité, c'est que les Québécois d'aujourd'hui sont faits de cette farine de la Révolution tranquille. Et écoutez, c'est ce que je défends, moi. Et je considère qu'on trouve là quelque chose de majeur dans l'histoire du Québec.
Il y a dans votre réflexion un concept qui est d'une importance majeure, me semble-t-il, et qui vous inscrit par ailleurs dans une tradition intellectuelle québécoise, c'est la notion de sujet politique, sujet collectif. C'est-à-dire, alors que la tentation de la sociologie aujourd'hui est de pousser, on y reviendra en deuxième partie, à la fragmentation infinie du corps social, vous retenez l'idée qu'il y a quelque chose comme un peuple, un sujet collectif, un sujet dans l'histoire qui est digne d'une certaine méditation sur la condition québécoise. Ce peuple porte ses contradictions, porte ses aspirations, mais ce peuple existe, disons ça comme ça. De ce point de vue, votre réflexion, me semble-t-il, et encore une fois, vous me corrigez si je me trompe, mais s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler vraiment la tradition de la pensée québécoise, pour reprendre les mots de Fernand Dumont, c'est-à-dire des gens qui se questionnent sur la singularité de l'exception québécoise en Amérique, des gens qui cherchent à penser cette singularité, non pas comme un fardeau, mais aussi comme une condition qui est porteuse d'émancipation. Donc, la tradition intellectuelle qui est la vôtre, vous êtes entré en sociologie, disons, par le marxisme, mais est-ce qu'on peut dire que la tradition que vous avez rejoint finalement, c'est cette longue tradition qui nous vient de Léon Gérin et qui aboutit aujourd'hui dans vos travaux, qui passe aussi par Léon Dion, Gérard Bergeron, qui vient de la science politique quelquefois, mais qui se pose les mêmes questions, et qui est une réflexion finalement sur la condition québécoise et à la lumière d'une condition collective qui fait sens au-delà de sa pluralité irréductible, au-delà de sa pluralité intérieure.
Oui. Pour moi, la notion de sujet politique est très importante, pas seulement parce que c'est une notion sociologique autour de laquelle on peut réfléchir, mais parce que justement, j'ai parlé au début de notre entretien de l'espèce de transcendance à laquelle je m'attachais lorsque je découvre la sociologie. C'est-à-dire cet élément, cette dimension de l'existence collective qui organise, qui synthétise en quelque sorte la dispersion des pratiques individuelles. Je l'ai trouvé, la sociologie nous proposait de comprendre cela avec des notions de classe, de société, La notion de sujet politique permet la même chose. C'est-à-dire que les Canadiens français de jadis, comme les Québécois d'aujourd'hui, sont très différents si on les uns les autres, là, si on les regarde, si on les examine de près. Il y a des différences de conditions matérielles, de conditions de vie, de culture, évidemment. Mais au-delà de ces différences évidentes, mais que l'analyse sociologique doit essayer d'appréhender, il y a quelque chose qui transcende tout cela et qui se synthétise dans un sujet collectif que j'appelle le sujet politique. Un sujet qui fait en sorte que toute une collectivité peut se reconnaître dans l'un, peut se reconnaître dans quelque chose qui est la synthèse de cette dispersion des pratiques et des conditions individuelles. Alors, un sujet politique, c'est très important parce que c'est ce qui permet de constituer une unité au-delà de la diversité. C'est ce qui permet l'action collective aussi. C'est le sujet politique qui entreprend, qui caresse un projet, qui le fait vivre au-delà de l'activité ordinaire, de l'agitation normale et ordinaire d'une société qui vaque à ses affaires. Alors, le sujet politique québécois, justement, c'est la Révolution tranquille qui le fait naître en quelque sorte. Il existait auparavant d'une autre manière. On pourrait en discuter, mais c'était davantage un sujet de culture, si on veut, ce qui n'est pas rien non plus. Mais la Révolution tranquille, elle, fait naître, transforme ce sujet de culture en sujet politique. Lui confie, il y a un projet qui lui est confié à ce sujet politique, et c'est celui de l'émancipation. Alors, il ne s'agit pas d'idéaliser tout ça en disant à partir de là tout va bien parce que ce sujet politique transporte ce projet, lui confère sa forme et puis le fait aboutir. Évidemment, les choses sont malheureusement pas aussi simples, aussi unilatérales. Il y a des ratés, il y a des échecs dans tout ça, mais quand même, le sujet politique, c'est le lieu de la synthèse, c'est le lieu du rassemblement. Hein, c'est la manière que la société se donne de se représenter dans quelque chose qui la totalise.
Mais est-ce que c'est pas la chose la plus difficile qui soit dans la sociologie d'aujourd'hui que d'accepter la possibilité de cet un rassembleur, de ce moment d'unité qui transcende, pas qui abolit, mais qui transcende la pluralité, cette idée finalement qu'il y a des rapports sociaux qui ne sont pas que domination, qui ne sont pas que conflictuels, et qu'au-delà de ça, il y a quelque chose comme un destin partagé. Est-ce qu'une thèse comme celle-là n'est pas transgressive, incroyablement, pour la sociologie d'aujourd'hui?
Oui, vous avez raison. Vous avez raison. La sociologie d'aujourd'hui est attentive à l'inverse de ce que je viens d'expliquer. La sociologie s'intéresse justement à la différence, à la conflictualité, à la division, à la fragmentation de la société. Et en conséquence, elle est attentive aux droits que revendiquent les uns et les autres. Elle est obsédée par l'analyse de la différence. Et tout cela est certainement pas illégitime et certainement pas inintéressant. Mais c'est vrai que dans ces approches diverses et variées, ce qui est malheureusement exclu, c'est précisément la pensée de ce lieu de rassemblement, la clôturation d'un monde commun dominé par un sujet politique qui en est comme la synthèse ou l'expression. Alors, ce langage sociologique, vous avez raison de le dire, est devenu suspect. Il est devenu un peu ringard, diraient certains, parce que il manipule les catégories du commun, de l'ensemble, de la transcendance intériorisée de la société qui se donne un sujet, plutôt que de s'intéresser à la division, la conflictualité. La grande philosophe Hannah Arendt, mm-hmm, posait la politique justement dans ces deux polarités. Hannah Arendt disait que la politique, c'est le lieu de la pluralité humaine. C'est le lieu de la rencontre de la pluralité humaine. Et qu'on doit toujours accueillir, il faut lui permettre de s'exprimer. Mais, disait-elle, le politique, c'est le lieu à l'intérieur duquel se constitue ce qu'elle appelait le monde commun. Le monde commun, c'est ce qui se construit au-delà de la division. Non pas pour l'écraser et la nier, mais au-delà, c'est-à-dire un monde commun qui soit un lieu de rassemblement de la diversité autour d'un ensemble de valeurs partagées, mais plus que ça, de consensus, même si ce mot-là est devenu extrêmement suspect, de consensus autour de ce que nous voulons faire de la société. Alors, oui, la société, la sociologie d'aujourd'hui est plutôt à tourner le dos, au fond, à toute cette réflexion portant sur le monde commun, et je dirais de manière plus générale sur le commun. La question du commun n'est plus au centre des préoccupations de la sociologie. C'est un peu étrange. Quand on regarde les pères fondateurs, par exemple, qui, eux, tout au contraire, tout en s'intéressant à la division du travail social, mm-hmm, Durkheim, essayait de penser la totalité, essayait de dire au fond qu'est-ce qui transcende ce qui tente à se diviser et à se fragmenter. C'est une question fondamentale que la sociologie est en train de déserter.
Alors Jacques Beauchemin, nous allons passer à la pause pour quelques instants et nous revenons ensuite pour une réflexion justement sur la suite de cette réflexion, notamment sur votre livre La société des identités et les autres aspects de votre réflexion. De retour dans quelques instants à la vie des idées.
Radio VM.
Alors, chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées pour la deuxième partie de cet entretien avec Jacques Beauchemin, sociologue, professeur à l'UQAM. Cet entretien qui marque l'ouverture de la troisième année de la vie des idées. Je le reçois pour marquer justement cette ouverture de cette aventure intellectuelle qui se poursuit au micro. Alors, Jacques Beauchemin, vous avez, au moment de quitter, au moment de la pause, vous réfléchissez à la question du commun, c'est-à-dire nos sociétés ont de plus en plus de difficultés à penser le commun, le monde commun, ce qui transcende les conflits sociaux, ce qui transcende le caractère polémique des rapports sociaux en quelque sorte. Et dans votre œuvre, il y a un livre majeur auquel on vous ramène encore aujourd'hui très souvent, qui est La Société des Identités, où vous avez cherché à comprendre finalement la décomposition de ce à quoi vous tenez, en quelque sorte. C'est-à-dire le fait que nous sommes dans une société fragmentée à outrance, dans une logique de dispersion, et cette dispersion ne cesse de s'accentuer. Comment expliquer cette difficulté aujourd'hui à penser ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la nécessité du commun? Ce qu'on pourrait dire, ce qui va de soi pour la plupart d'entre nous peut-être, la nécessité du commun, la sociologie qui est la discipline qui est institutionnalisée pour penser ce commun, à certains égards, pas seulement ça, mais pour le penser, n'est plus capable de le penser. Comment expliquer cette espèce d'effet de dispersion que vous avez analysé justement dans votre livre « La société des identités » ?
Ben, on peut dire qu'il y a une espèce de dynamique historique qui s'est déployée tout au long du 20e siècle et justement dans une forme de régulation de la société particulière qui était l'État-providence, le fordisme, s'est déployée depuis une centaine d'années, un peu moins, une espèce de système régulatoire qui a fait en sorte de mettre en lumière ou en exergue justement le différent plutôt que le commun. Quand l'État-providence, par exemple, sous l'État-providence, on commence à se demander pour quelles raisons les enfants de la classe ouvrière n'ont pas accès à l'éducation, à l'université, par exemple. On se dit, mais c'est injuste, c'est inégalitaire. Il faut trouver des portes, des moyens d'accès à ces catégories sociales à l'éducation. Quand, par exemple, on s'aperçoit que l'accès au système de santé, l'accès aux soins, de manière générale, est réservé aux plus riches dans les années 20 et 30, on se dit, mais c'est injuste, il faut trouver une porte d'accès, etc. On met, pour reprendre mon exemple de l'accès à l'éducation, on met en place des systèmes de bourses, de prêts. On va aller aux États-Unis, par exemple, jusqu'à modifier les examens d'entrée à l'université pour s'assurer que des catégories sociales défavorisées puissent accéder à l'université grâce à des examens faits un peu sur mesure. Quand on fait ça, on est en train de repenser la société sur le mode du différent, sur le mode de la condition spécifique de certaines catégories d'acteurs. Alors, évidemment, c'est inutile de dire qu'il y a dans cette disposition un caractère éminemment progressiste. Personne aujourd'hui va déplorer le fait que les enfants de la classe ouvrière aient accès à l'université. Personne ne va dire, au fond, ça devrait être le fait des plus riches, le privilège des plus riches. Bien sûr que non. Mais pendant que la régulation de la société se transformait dans cette direction-là, pendant que s'affirmaient progressivement des groupes, des catégories sociales, se dissipait la représentation du commun. Paradoxalement, la société en est venue à être représentée, et la sociologie a alimenté cette représentation-là, comme l'agglutinement ou l'agglomération de groupes, de catégories, qui tous avaient leurs intérêts, leurs revendications particulières. Tous étaient en demande de reconnaissance de quelque chose, reconnaissance de mes droits, de ma différence, de ma particularité. Et ce qui a fait en sorte, évidemment, de recomposer la communauté politique de cette manière-là. Dans nos sociétés, la communauté politique, c'est maintenant cette espèce de mosaïque. Qui combine un ensemble de regroupements qui tous, d'une manière ou d'une autre, sont à la revendique pour eux la revendication de leurs différences. Alors, j'insiste pas sur le caractère positif de ça, parce que c'est quelque chose qui est évident et qui est très, très connu maintenant. Personne, par exemple, va déplorer le fait que la communauté gay-lesbienne, par exemple, soit parvenue au fil des années à se faire reconnaître, comment dire, dans son droit à la différence. Personne ne va déplorer le fait que cette communauté-là, aujourd'hui, est en bien meilleure santé que jadis. Le taux de suicide chez les jeunes est quand même en régression. C'est une bonne nouvelle. Mais on pourrait multiplier les exemples. Je ne parle même pas du mouvement des femmes et les progrès absolument considérables que ce mouvement-là a pu instiller dans notre société. Et ça, tout cela va de soi. Mais dans une perspective proprement sociologique, il faut constater que tout ça a eu pour effet un peu paradoxal de rendre la figure du commun un peu évanescente.
Oui. Ou de la réduire finalement à une pure procédure, comment dire, quelque chose de purement juridique. C'est-à-dire à partir du moment où le commun s'affirme, on dira mais ça représente l'écrasement par une majorité de certaines minorités. Donc, d'une certaine manière, le commun n'est plus qu'un artifice au service de ceux qui le revendent, qui le brandissent comme étendard pour justifier leur hégémonie. C'est un peu ce qu'on nous dit aujourd'hui. Mais la question qui nous vient à l'esprit alors, c'est y a-t-il encore une aspiration au commun dans le corps social? C'est-à-dire, vous notez cette dispersion de la société, cette société des identités, pour reprendre le titre de votre ouvrage, mais est-ce qu'au-delà de ces revendications qui se multiplient au nom de différentes causes légitimes ou non, tout dépend chaque fois, est-ce qu'au-delà de ça, est-ce qu'on sent un désir de commun dans la société, ou est-ce que ce désir même de commun n'est plus porté que par certains nostalgiques, certaines figures qui font presque du collectif un programme en soi? Est-ce qu'il y a un désir de commun qui réside encore dans les fonds de la société?
Je dirais que dans nos sociétés, le désir de commun, s'il existe toujours, il loge dans cette idée simple et en même temps vertigineuse de la reconnaissance de tous par tous. Le commun dans nos sociétés, c'est la capacité que nous avons ou que nous devrions avoir de s'ouvrir maximalement à la différence et à la reconnaissance. Alors, une société idéale, dans la sociologie spontanée des sociétés contemporaines, c'est une société où chacun peut s'affirmer dans ses caractéristiques propres, dans sa différence, et être pleinement reconnu sur cette base-là.
Mais vous ne croyez pas qu'il y a un désir de commun substantiel qui réside? Je vais donner un exemple politique très récent. Le fameux débat sur la Charte des valeurs. On pouvait en penser ce qu'on voulait, mais il y avait néanmoins une majorité significative de Québécois qui y étaient attachés, autour de 60%, alors que c'est un projet substantiel à certains égards. La laïcité telle qu'elle nous était proposée, et même le langage des valeurs qui était utilisé, c'était pour nommer l'idée qu'il y avait quelque chose qui nous liait au-delà du droit et des droits. Est-ce que vous ne voyez pas là-dedans un désir de commun substantiel, ou pour vous, c'est un résidu d'une phase historique antérieure appelée à se dissiper?
Ben, c'est vrai que, de toute façon, c'est vrai en toute société, c'est-à-dire que le nouveau ne chasse jamais véritablement ou complètement l'ancien. Il y a des survivances qui sont, dans l'exemple que vous donnez, heureuses, me semble-t-il, ce désir de commun dont vous parlez. Et en même temps, dans l'histoire de la Charte des valeurs, il faut bien voir aussi que c'est vrai qu'il y avait un appui populaire assez important. Et en même temps, ce qu'on peut appeler le discours social dominant, oui, celui des chroniqueurs, celui des grands médias, celui des grands intellectuels qui prennent la parole publiquement, ce discours-là était très défavorable à la Charte des valeurs. Pourquoi? Parce que justement, ce discours-là défendait cette autre vision de la société tout entière, ouverte à la différence. Et la Charte des valeurs, en ce sens, était vue comme le contraire de ce projet-là. Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cet épisode de la Charte des valeurs, c'est pas tellement le fait qu'il y avait un appui populaire qui, effectivement, était relativement important. Ce qui m'a frappé, c'est le discours social dominant, qui était complètement réfractaire. Et là, on se dit, la société, elle s'est reconfigurée. Elle est devenue un peu autre chose.
Donc les préférences populaires n'ont plus la légitimité pour s'affirmer à certains égards.
Mais non, parce qu'elles sont vues justement comme fondamentalement réactionnaires, ou arriérées ou retardées. Alors on va dire, par exemple, ben, évidemment, se trouve dans les tréfonds de la conscience populaire des relents d'ethnicisme ou d'intolérance. Et il faut éduquer le peuple. Hein? Il faut lui montrer la voie de l'ouverture et de la tolérance. Alors, c'est certain que, on va dire autrement, il y a au fond, dans les sociétés contemporaines, sans doute un désir de commun qui ne trouve pas aujourd'hui la manière de s'exprimer, qui n'a plus de voie d'expression. parce que immédiatement condamné. Parce que évidemment, le commun, hein, le désir de commun, il est suspect. Hein, vous l'avez dit vous-même, il est aujourd'hui perçu comme volonté de domination. Oui. Hein, le commun serait en train d'écraser de manière plus ou moins légitime l'expression du différent. Là où se trouve pourtant, c'est toute la sociologie contemporaine qui nous le dit, les ingrédients du progressisme, l'avenir de l'humanité, hein, qui est un avenir d'ouverture à la diversité.
Alors, nous allons bientôt passer à la question nationale, qui est une part centrale dans votre réflexion. Mais j'aimerais y arriver à travers un petit chemin de détour. Vous allez me voir venir assez rapidement. Nous avons dans notre réflexion, chacun d'entre nous, quelques grandes figures qui sont centrales, auxquelles on revient toujours d'une manière ou de l'autre. Des figures importantes qui sont des interlocuteurs qui peuvent être morts depuis longtemps, mais on y revient néanmoins parce que leur pensée nous a marqué profondément d'une manière ou de l'autre. Vous vous inscrivez dans la tradition des grands interprètes de la condition québécoise. De ce point de vue, j'aimerais vous poser une question seulement sur Fernand Dumont, à qui vous avez consacré quelques textes remarquables, de très beaux textes sur le rapport à l'histoire chez Fernand Dumont notamment. La question que j'aimerais vous poser, c'est parmi les, appelons ça, soit les grands disparus, même les grands contemporains, est-ce qu'une figure comme Fernand Dumont, qui nous conduira ensuite à la question nationale, est-ce qu'une figure comme Fernand Dumont demeure pour vous un interlocuteur, une figure de référence dans votre réflexion? Est-ce qu'il représente la dernière grande étape de formulation de la conscience collective que vous cherchez à prolonger ou à réactualiser d'une manière ou de l'autre? Est-ce que j'ai tort de croire que vous êtes, à certains égards, non seulement l'héritier, parce que le terme serait réducteur, mais celui qui prolonge les questionnements qui ont été portés pendant un temps par Fernand Dumont?
Ah, vous avez tout à fait raison de le penser, de le dire. Oui, Fernand Dumont a été pour moi une source d'inspiration considérable. Sur le plan théorique ou de l'analyse sociologique du Québec, j'y viendrai dans un instant, mais je dirais d'abord et avant tout, et ça pourra sembler étrange à nos auditeurs, parce que ce que je vais dire est un peu non sociologique, ce qui m'a d'abord attiré chez Fernand Dumont, c'est sa sensibilité. Voici un intellectuel, un analyste de la condition québécoise qui n'a jamais tourné le dos au vieux monde canadien-français, comme tant d'intellectuels québécois l'ont fait au moment de la Révolution tranquille, pour des raisons dont on pourrait parler, qui sont relativement évidentes. Il fallait bien tuer le père pour faire naître le fils, le père canadien-français pour faire naître le fils québécois. Bon, ces choses-là sont relativement connues, mais Fernand Dumont n'a jamais, lui, renié ce passé-là. Au contraire, il entretenait vis-à-vis de ce passé canadien-français un genre de tendresse, une proximité. Il était capable de le ressentir comme de l'intérieur. Et ça m'était... c'était très important pour moi. J'ai toujours, moi-même, eu cette espèce de sentiment attendri, respectueux et admiratif pour le passé canadien-français, dans lequel je trouve un indéracinable désir de durer, un entêtement tranquille à rester dans l'histoire, à partir, au fond, de moyens réduits, minimum. Une société qui n'était pas la plus cultivée, la plus instruite en Amérique du Nord, la plus riche non plus. Une société qui portait, au fond, depuis 1840, la menace sourde de son éventuelle disparition. Qui ne s'est pas finalement réalisé. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de tendresse et d'admiration pour ce monde canadien-français. Fernand Dumont l'avait aussi. Et c'est ce qui m'a amené à lui, je dirais. Vous lisez Fernand Dumont, vous retrouvez toujours, même dans ses analyses les plus savantes. Je pense, par exemple, à son livre de 93, « Jeunesse de société québécoise », qui est un maître ouvrage quant à moi. Vous retrouvez toujours cette espèce de rapport ému à se passer. Alors, c'est ce qui m'a amené à Fernand Dumont. Et ensuite, j'ai toujours apprécié chez lui son intérêt, son ouverture pour la question de la culture et de l'identité. Fernand Dumont est un sociologue. Il sait très bien que les rapports sociaux sont faits aussi de rapports de force. Mmh. Il sait très bien aussi que une société capitaliste vient formater les rapports sociaux de manière générale. Il sait ça. Mais il sait aussi que les sociétés s'inventent, se représentent dans un imaginaire, dans ce qu'on peut appeler une identité collective, une symbolique, des idéologies. Hein, c'était ses grands objets de réflexion durant des années. Il sait cela et il s'intéresse à ça. Pour lui, c'est aussi important, au fond, que les rapports de classe, là, sinon plus. Alors, j'ai été très, très sensible à cette approche-là, justement parce que c'est une approche qui rejoignait, et ça nous ramène au début de notre entretien, ce sentiment ou cette nécessité que je ressentais d'expliquer la société à partir du haut, hein, à partir de ce qui l'organise de manière générale. Alors, Dumont nous dit c'est l'idéologie, c'est l'imaginaire, c'est la culture qui organise la société. Ce avec quoi je suis parfaitement d'accord et ce qui me rapproche de Fernand Dumont. Alors, toutes ces choses-là, au fond, nous les avons en commun, ou je peux dire autrement, plus modestement, qu'il me les a enseignés, hein, à sa façon. Je partage aussi avec lui son analyse de la Révolution tranquille, par exemple. Fernand Dumont, on le voit souvent comme un artisan de la Révolution tranquille, lui avec d'autres. Mais c'est peut-être le premier intellectuel, dans les années 60 déjà, qui est capable de voir, si vous voulez, les contre-effets de la Révolution tranquille, en disant, est-ce qu'on n'est pas, au fond, en nous réinventant ce qu'il fallait faire, est-ce qu'on n'est pas en train de nous priver d'un horizon historique, d'un passé qui éclairerait le présent et l'avenir? Hein? C'était la grande crainte de Fernand Dumont, qu'on retrouve dans Vigile du Québec de 71, par exemple. Et je pense qu'il avait raison. Il le voyait avant tout le monde. Il voyait le danger, au fond, de faire tabula rasa du passé canadien-français et de se lancer dans la grande aventure de l'émancipation que j'ai célébrée tantôt. Mais sans arrière-plan historique pour pouvoir informer cette émancipation-là.
Alors, Fernand Dumont est très attaché à la durée canadienne-française que vous avez évoquée tantôt. Vous-même, vous êtes revenu à quelques reprises sur ce désir de durée qui marque la condition québécoise. Vous avez un engagement dans l'espace public connu, un engagement indépendantiste, souverainiste. Et à la différence de plusieurs, vous menez au cœur de cet indépendantisme justement cette question du désir de durée, de ce vieux désir d'achèvement collectif, cette aspiration à faire de vous penser l'indépendance dans la continuité historique québécoise à certains égards. Vous avez évidemment l'histoire en trop, 2002 si je ne me trompe pas. Ensuite, la souveraineté en héritage qui arrive un peu moins de 15 ans plus tard, je pense en 2015, si je ne me trompe pas. D'un ouvrage à l'autre, ce qui marque véritablement, c'est l'importance de la conscience historique. C'est un point de vue très dumontien, finalement, sur la question québécoise. Vous pensez l'indépendance sous le signe du vieux désir d'achèvement, et pourtant, aujourd'hui, on sent peut-être que cette conscience historique qui carbure au vieux désir d'achèvement est peut-être en train de s'assécher pour de bon. Comme s'il y a quelque chose qui ne s'était pas passé, puis quelque chose se brise dans les ressorts intimes de l'identité québécoise.
Oui.
Dans votre engagement souverainiste, est-ce que vous parvenez à penser encore sous le signe de l'achèvement historique, du vieux désir de durée des Québécois, la cause souverainiste, ou est-ce que vous êtes porté devant cela à un regard qui pourrait devenir mélancolique avec le sentiment d'un inachèvement collectif?
Ben, je ne peux pas vous cacher mon inquiétude. Est-ce que ce vieux désir d'achèvement est définitivement éteint dans la conscience historique québécoise? Je ne le pense pas, mais cette idée m'inquiète. Je crois voir parmi nous s'installer ce que j'ai appelé dans mon dernier livre une fatigue.
Oui.
Cette fatigue-là, elle est le résultat de quelque chose qui aurait dû se produire, qui ne s'est pas produit. Vous avez évoqué vous-même, Mathieu, dans plusieurs de vos écrits, les conséquences néfastes des deux échecs référendaires. C'est vrai que ces échecs référendaires ont pour effet, pas seulement de décourager, ça va bien au-delà de ça, c'est que ça démonte quelque chose.
Oui, ça désarticule le récit, l'imaginaire collectif.
Oui, oui. Et s'installe lentement mais sûrement, dans le Québec d'aujourd'hui, un ordre des choses relativement apaisé. Les Québécois ont, pour ainsi dire, et c'est un peu paradoxal de parler comme ça, mais réglé la question du Canada. Le Québec ne va pas s'intégrer dans l'honneur et l'enthousiasme au grand tout canadien. On ne va pas redécouvrir un amour pour ce pays-là que nous n'avons jamais eu véritablement. Mais ce qui est en train de s'installer, c'est un consentement. Un consentement au Canada, comment dire, par défaut. À force de ne pas vouloir mener à terme le projet émancipateur de la Révolution tranquille qui aurait dû aboutir dans l'indépendance du Québec, ben, s'installe dans une espèce d'indolence. Cette espèce de consentement mou, irréfléchi, en fait, au Canada. Il y a très peu de Québécois aujourd'hui qui chantent les vertus du Canada. Mais il n'y en a pas beaucoup non plus qui tiennent vis-à-vis de lui les propos rageurs de jadis. S'installe quelque chose. Alors, dans l'esprit de beaucoup de Québécois aujourd'hui, la question de l'indépendance, elle n'est pas rayée de la carte, elle n'est pas obsolète, elle n'est pas... Mais elle n'est plus vécue dans l'urgence. Elle n'est plus vécue comme douleur et comme souffrance. Quelque chose qu'il faudrait faire. Un actuel qu'il faudrait dépasser. Vous avez des Québécois aujourd'hui qui disent « Mais vous savez, ça va finir par se faire. » Peut-être. Et si ça ne se fait pas, ben ma foi, est-ce que le Québec est un goulag? Est-ce que ça va si mal? Est-ce que, comme pour reprendre les termes de mon collègue Justin Letourneau de l'Université Laval, Letourneau dit « Les Québécois sont heureux. Hein? C'est une population heureuse. Regardez les jeunes aujourd'hui, là, ils sont dynamiques, en pleine forme, heureux. Bon, pourquoi faudrait-il faire l'indépendance? » Ben, au fond, c'est un peu la question que des Québécois s'oppose ou ne s'oppose plus, ça revient au même, là, accepte un espèce de déjà-là et qui n'exclut pas qu'un jour le projet puisse refaire surface. Mais actuellement, je vous ai parlé de mon inquiétude. Mon inquiétude tient précisément à cette espèce d'indolence générale qui fait en sorte que la question du Canada ne se pose plus et je dirais que celle du Québec non plus. Alors, il y a un espèce de présentisme dans lequel on est installé et qui fait en sorte que, ma foi, c'est pas si mal. Ça pourrait peut-être être mieux, mais c'est comme ça. Et ben les choses étant ce qu'elles sont, hein, l'histoire du Québec continue. Et puis, la grande question qu'on peut se poser, c'est si un jour il y a un réveil, ben où en serons-nous le jour du réveil?
Alors, vous avez dans votre livre « La souveraineté en héritage », vous parlez de la part tragique de la condition québécoise. Et j'ai l'impression que c'est, vous me corrigerez, mais j'ai l'impression que c'est la part absente en général de la réflexion collective depuis 50 ans. On est tellement heureux de ne plus être des Canadiens français souffrants, porteurs d'eau, sieurs de bois, locataires et chômeurs en son propre pays, qu'on s'est dit on va être une société normale, puis on va l'être contre toute évidence s'il le faut. C'est-à-dire, on va maintenir le récit, à tout le moins pas de notre émancipation, mais au moins de notre normalité, et témoigner de cette part tragique dans l'existence québécoise. C'est-à-dire qu'il se pourrait que comme peuple, nous n'existions plus. Bon, ça changera peut-être pas le cours de l'histoire universelle, mais ça pourrait être triste à tout le moins pour ceux qui disparaissent ainsi. Cette part tragique, nous ne sommes pas capables de l'assumer dans la conscience collective. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi que nous avons une forme de refus du tragique dans la pensée québécoise aujourd'hui? Ou est-ce qu'on le détourne pas vers... Peut-être qu'on le détourne vers d'autres choses aussi, mais est-ce que nous sommes capables de penser la part tragique de notre condition collective?
Ah, c'est une question intéressante. La condition québécoise, elle est objectivement tragique. Non, oui. Hein? C'est un peuple minoritaire en Amérique que tout vous à la disparition. Il y a un tragique. Il y a la condition québécoise, elle est lourde à porter depuis toujours. Elle est difficile à vivre. Elle a été d'ailleurs vécue longtemps comme manque, comme souffrance et comme drame. Le Québec d'aujourd'hui a pour ainsi dire oublié la part tragique de cette histoire-là. Notre société, c'est pas la seule, mais il faut bien le dire, elle est aujourd'hui marquée par la légèreté. Elle refuse cette part tragique, trop lourde à porter. Elle a l'impression de s'en être débarrassée. Dans, par exemple, des choses comme une relative prospérité économique. Les Québécois d'aujourd'hui sont plus riches que les Canadiens français de jadis. ils sont à mes égards dans une situation, comment dire, plus avantageuse, plus éduquée, plus bon. Le Québec d'aujourd'hui est une société qui, sur le plan matériel, n'est pas si mal nantie. Mais justement, cette espèce de confort relatif, pas seulement matériel, hein, un confort identitaire. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes des modernes, nous appartenons aux sociétés les plus avancées du monde. Bon, nous avons accès à beaucoup de choses. Cette légèreté-là fait en sorte que la part tragique, nous ne voulons plus l'assumer. C'est tellement vrai que le discours souverainiste lui-même se cherche parce qu'il est incapable maintenant de jouer cette dimension-là qui a longtemps été un aspect important. Quand on ne peut plus évoquer le passé canadien-français parce que ringard, passéiste, arriéré, quand on ne peut plus évoquer la part tragique du parcours historique québécois ou de la condition québécoise, je dirais, ben, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi l'indépendance? Voici une société moderne, avancée, plutôt prospère, qui a fait la paix avec son passé en le liquidant. Ben, au fond, qu'est-ce qui reste, là? Quels sont les motifs de faire l'indépendance? Est-ce que c'est pourquoi pour avoir un siège à l'ONU, avoir des frontières avec le Canada qui nous permettraient de résister à certaines lois canadiennes qui nous plaisent pas? C'est déjà des bonnes raisons, mais c'est peut-être pas suffisant. Alors, effectivement, vous avez raison de le dire, il y a quelque chose dans la conscience historique québécoise qui est en train de s'éteindre, c'est-à-dire la difficulté d'être Québécois et ce à quoi devrait nous appeler cette difficulté, c'est-à-dire son dépassement dans quelque chose qui ferait de nous un sujet politique abouti.
Alors, il nous reste à peine 2 minutes. Je m'en voudrais de ne pas que nous nous quittions avant que je vous ai posé une question toute simple, c'est-à-dire sur votre vocation intellectuelle, c'est-à-dire vous êtes une figure majeure de la vie publique québécoise. Lorsque vous prononcez sur une question votre avis contre, votre réflexion, lorsque vous publiez un livre, c'est un moment dans notre vie intellectuelle. Question finale en 1 minute, en fait, 1 minute 15. Comment vous représentez-vous votre vocation intellectuelle? Quel est le rôle que vous donnez dans la vie publique? Qu'est-ce qui vous anime, vous porte en fait au cœur de la vie publique ainsi?
Ben, j'assume ce rôle avec modestie, c'est-à-dire que la vie a fait en sorte que, effectivement, j'ai le privilège de pouvoir m'exprimer publiquement, de faire valoir des idées, des positions politiques. Et je pense que c'est mon rôle de le faire. Vous savez, on me dit souvent, même mes collègues me disent, que le rôle d'un professeur d'université ne devrait pas être d'être sur la place publique. Je pense tout le contraire. Je pense qu'il faut effectivement... ces choses-là sont dites sans prétention. Hein. Il faut éclairer le débat public. Proposer sa propre interprétation de manière à ce que, bon, qu'on en fasse ce qu'on veut. Mais c'est mon rôle et je vais continuer de le jouer de cette manière-là.
Alors Jacques Beauchemin, je vous remercie infiniment pour votre participation aujourd'hui à La Vie des idées. C'est un immense plaisir, merci.
C'est un plaisir.
Et chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Vie des idées. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM.